Cette émission vous est présentée par Holisma, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.
Bonjour Florian.
Bonjour Fabrice.
Florian Petitjean sur Nutri Radio, c'est un petit bonheur qui se produit tous les jeudis et que vous retrouvez en podcast à partir du dimanche, pour ceux qui sont plus le côté intégratif de l'émission. Le côté intégral, sans les pauses musique. Mais bon, c'est deux ambiances différentes. Hein. Ça, quand on écoute ça en semaine, entre ce que vous nous dites et la musique, ça nous fait une bonne petite mayonnaise, une bonne petite recette. Et aujourd'hui, vous avez une invitée, c'est Emmanuel Discala, docteur en physiologie cardiaque et biologie moléculaire. Hop. Maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bourgogne, présidente de l'Institut de recherche indépendante sur l'auto-guérison et auteur des livres L'homéopathie, des désaccords entre les scientifiques, l'homéopathie en débat et vaccination en général et vaccination anti-Covid, autant vous dire des sujets qui font l'unanimité. Et ça, ça fait plaisir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a parlé d'homéopathie il n'y a pas longtemps. Vous nous avez fait la petite histoire de l'homéopathie avec un talent de conteur exceptionnel, Florian. Donc, on va encore se régaler aujourd'hui.
Eh bien, c'est parfait. Merci Fabrice pour cette introduction. Je suis ravi d'accueillir Emmanuela. Bonjour Emmanuela.
Bonjour Florian, bonjour Fabrice. Merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici.
Eh bien, pas autant que nous, en tout cas, au moins tout autant. On est ravis également. Alors, juste pour peut-être quelques mots d'introduction, tous les deux, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. En pleine controverse justement sur le sujet de l'homéopathie qui, on le sait maintenant, a été déremboursée en 2021. Et une controverse qui, ma foi, s'est souvent transformée en polémique entre des pour et des contre. Alors la raison, elle est à la fois simple et complexe. Simple parce que ceux qui sont pour sont plutôt ceux qui la pratiquent ou l'utilisent, je pense aux médecins, aux patients, et parce que les contres aussi, de leur côté, considèrent que l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. C'était justement l'objet aussi de la précédente émission sur le sujet, on en avait un petit peu parlé, mais simple certes, mais aussi complexe en fait, parce qu'en analysant la sociologie de toutes ces personnes, on comprend qu'ils ne raisonnent pas toujours de la même manière et que leurs positions dépendent beaucoup de leur ancrage sociologique. Alors là, on complique un peu le sujet déjà, parce que la sociologie et la médecine, eh bien, c'est assez nouveau de se dire qu'il peut y avoir un lien. Et c'est justement sous cet angle de la sociologie que tes recherches, Emmanuela, ont porté avec le projet Homeox pour Homéopathie, Object of Controversy in the Societal Sphere, en français, l'homéopathie est objet de la controverse dans la sphère sociétale. Alors, avant de commencer et entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que justement la sociologie et d'une manière générale les sciences humaines et sociales peuvent nous apporter dans le champ de la recherche médicale ?
Oui, la sociologie et les sciences humaines en général ont un apport assez important dans les sciences en général et notamment dans le cadre de la santé et notamment depuis les années, je dirais, 1970, puisqu'elles vont intégrer les sciences au sens large du terme comme objet d'étude au sein de la société et donc finalement les sciences vont être intégrées comme objet sociologique d'études, ce qui n'était pas le cas avant, puisque finalement avant, les sciences étaient découplées de toute étude sociologique et sociétale. Et donc ça, c'est un point très important parce que ça permet finalement d'analyser et d'étudier les sciences et la santé en particulier sous l'angle sociologique avec des approches méthodologiques aussi, certes quantitatives, mais aussi qualitatives qui vont nous permettre de mieux comprendre les positionnements, les représentations des individus notamment.
Très bien.
Je vous propose une première pause, oui. Florian, vous savez.
Là, j'attendais le moment et j'allais enchaîner, j'hésitais, je savais que la pause allait
arriver, mais oui. Alors, pendant la pause, je vous propose, si vous voulez bien, Emmanuela, de baisser un tout petit peu le micro au niveau du menton parce que je pense qu'il est un peu trop proche. Et donc, voilà, c'est pas optimal, mais on fait ça pendant la pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et pour bien tout dérouler tranquillement et on ne vous interrompra allez, peut-être une petite fois, c'est même pas sûr. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Découvrez Holisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant phytoaromathérapie et cosmétiques thermales, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Holisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.
Et l'invité de Florian Petitjean aujourd'hui dans cette émission, c'est Emmanuela Di Scala. Je ne sais pas si je dois vous redonner son CV. Je pense qu'on va directement passer au sujet du jour, parce que le CV est long.
Il est tellement long.
Le CV est long, il est brillant. C'est que des gens brillants que vous voulez que je vous dise. Si c'était le mien, ça aurait été plus vite. De la controverse sur l'homéopathie à la recherche sur l'auto-guérison, c'est le sujet du jour avec vous, Florian, et votre invité.
Très bien, merci. Et du coup, j'en profite pour aussi faire un pont entre la sociologie et la santé intégrative, qui est, comme vous le savez tous les deux, mon sujet de prédilection, dans la mesure où la santé intégrative, c'est aussi une recherche, fait aussi l'objet de recherches dont on dit qu'elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la recherche aussi sur les aspects biomédicaux, sur les neurosciences, mais également sur les aspects plus associés aux sciences humaines et sociales, et en particulier la sociologie. Alors, du coup, c'est l'objet de la présence d'Emmanuela pour qu'elle nous éclaire sur ce point. Alors, du coup, pendant cette controverse, tu as monté ce projet, donc Homeox. Est-ce que tu peux nous expliquer quel en était l'objectif et comment ça s'est déroulé ?
Oui, oui. Alors, Homeox, c'est un projet qui a débuté en 2022 et qui s'est terminé, en 2018 et qui s'est terminé en 2022. L'objectif de ce projet était d'étudier justement la controverse au sujet de l'homéopathie et plus précisément d'analyser les représentations sociales des différents acteurs impliqués dans cette controverse au sein de la société, aussi bien le grand public que les médecins, pharmaciens, scientifiques notamment, mais aussi des scolaires ou étudiants. Donc ça, c'était l'objectif, pour mieux comprendre justement si les représentations des individus pouvaient influencer ou déterminer leur positionnement dans ce débat controversé. Voilà les objectifs.
Alors très bien, et du coup, ce qui m'a vraiment intéressé moi dans ce projet dès le début, parce que c'est la première fois en fait que je touchais à la sociologie, parce qu'on a beaucoup échangé à l'époque, et j'ai compris au travers de tes premières analyses et au travers de la première partie de tes travaux, qu'en fait il y avait deux groupes qui principalement émergeaient dans les enquêtes que tu as pu faire auprès de ces différentes personnes que tu as interrogées. Alors il y avait le fameux groupe A, peu importe que ce soit A d'ailleurs, ça peut être X, mais en tout cas un premier groupe qui, eux, voyaient l'homéopathie plutôt comme quelque chose, un objet non conforme à une norme, à la science par exemple, et un autre groupe, un groupe B, ou Y pour le coup, qui voyait pour sa part l'homéopathie plutôt comme une valeur, à savoir une médecine sans effet secondaire qui prend par exemple en compte l'individu dans sa globalité. Donc d'un côté des gens qui raisonnent norme, d'un autre des gens qui raisonnent valeur. Alors, ça veut dire quoi finalement ? C'est quoi la différence entre une norme et une valeur ? Et qu'est-ce qui se passe en cas de confrontation entre ceux qui ont finalement la norme comme centre de gravité et ceux qui ont plutôt la valeur au centre de leur représentation ? Qu'est-ce que ça change finalement à la fois dans les représentations et dans les échanges qu'il peut y avoir entre ces personnes ?
Alors, la valeur, une valeur, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est un objet auquel on va associer une appréciation, un jugement couplé à une préférence. Ici, dans le cas d'une des représentations, tu nommes le groupe B, mais c'est une des représentations, eh bien, leur objet, c'est la médecine auquel ils associent une préférence, un jugement, une appréciation d'une médecine sans effet secondaire, prenant mieux en compte l'individu. Une norme, finalement, elle a pour soubassement une ou des valeurs et les valeurs deviennent des normes, finalement, lorsqu'elles édictent des règles de conduite qui seront partagées par tous. La norme scientifique pharmacologique, elle a pour soubassement des valeurs qui ont porté sur la médecine, qui a été vue comme amenant et conduisant aux soins au travers de l'utilisation de substances pharmacologiques. Voilà. Donc ça, ce sont les deux éléments hein, qui expliquent ce que sont une valeur et une norme. Alors, pour répondre un peu plus et dans la suite de ta question, lorsque ces normes et valeurs se confrontent, puisque là, on a bien deux représentations opposées, comme tu le disais, la norme et la valeur sont leur centre de gravité. Je précise quand même que centre de gravité, ça veut dire aussi que valeurs et normes sont présentes chez les deux représentations, mais qu'elles sont hiérarchisées différemment. Donc, c'est bien la norme qui sera le centre de gravité de l'une des représentations et la valeur qui sera le centre de gravité de l'autre. Mais pour autant, elles sont bien présentes chez les deux autres, mais hiérarchisées différemment. Lorsqu'il y a donc confrontation entre cette norme et cette valeur, eh bien, la sociologie nous explique que cela conduit à des conflits. Des conflits parce que d'une part, ceux qui portent cette valeur comme centre de gravité, ils vont plutôt avoir une perception de valeur attaquée, bafouée par ceux qui vont estimer qu'elle est hors norme. Et donc, ils vont se monter en collectif pour la défendre, alors que ceux qui auront cette norme au niveau de leur centre de gravité vont plutôt percevoir cette valeur qui est un peu en dehors de la norme comme une transgression à la norme et comme une sorte de retour à l'obscurantisme, ce qui crée ces conflits.
D'accord. Okay. Et du coup, ces conflits se traduisent comment ? Dans un échange entre une personne qui a ses référentiels, en tout cas cette hiérarchie, la science, la pharmacologie, l'evidence-based medicine d'un côté, et de l'autre, en fait, quand on va raisonner, non pas sur ces mêmes bases, même si elles sont importantes dans leur esprit, je comprends bien que c'est présent également, mais qui vont privilégier finalement, je veux dire simplement, l'absence d'effets secondaires, comme on l'évoquait, ou le bien-être de la personne, ou le fait que la relation thérapeutique, elle est essentielle, peut-être même prioritaire finalement dans l'acte du soin. Comment ça se passe entre deux personnes qui vont parler de ça ? Elles vont réussir à se comprendre ou pas ?
Alors, en effet, comme tu l'évoquais, ceux qui ont la norme comme centre de gravité vont plutôt mettre en avant les preuves scientifiques qui permettent de mettre en évidence les données, alors que ceux qui ont la valeur vont plutôt mettre en évidence l'approche, la prise en compte de l'individu globalement. Et lorsque, eh bien, ils sont en discussion, en effet, on peut avoir des incompréhensions de part et d'autre, hein, de part et d'autre de ces représentations. Les uns pensant, notamment ceux qui ont la norme comme centre de gravité, que finalement leurs opposants ont une croyance qui finalement va être le moteur de leur positionnement. Et à l'inverse, ceux qui ont la valeur comme centre de gravité vont penser que les autres sont totalement dépourvus de cette valeur de prise en compte de l'individu globalement et qu'ils sont et qu'ils restent dans une forme de conservatisme.
D'accord. Et du coup, à force de controverses et de polémiques, on a vu également qu'il y avait eu des crispations telles que c'est allé en justice. Alors, est-ce que cette analyse ou comment cette analyse peut-elle justement expliquer que ça aille jusque-là finalement, après cette fameuse tribune qui a été publiée en 2018 contre l'homéopathie ?
Oui, tout à fait. Parce que la sociologie nous indique que, justement, pour comprendre les affaires en justice, il faut aller plus loin dans l'analyse. Et dans l'analyse que j'ai pu faire à ce sujet, justement, j'ai pu identifier ce qu'on appelle des registres de valeurs. C'est en fait des familles de valeurs qui sont impliquées. Et lorsque, donc, j'ai pu identifier trois familles de valeurs impliquées, dont deux plus particulièrement. L'une pour ceux qui ont la norme comme centre de gravité qui, eux, voit l'homéopathie comme un objet mystique associé à donc de la magie, de la sorcellerie. Et puis, à l'inverse, ceux qui ont la valeur comme centre de gravité, qui voient l'homéopathie comme un objet épistémique, c'est-à-dire de connaissance à mieux comprendre, à découvrir, pour lequel il reste encore des choses à comprendre et à creuser, mais un objet de connaissance scientifique. Et là, on a deux registres de valeurs, donc deux familles de valeurs qui sont diamétralement opposées. Et lorsqu'on a justement ces oppositions complètes entre deux registres de valeurs, sociologiquement, c'est ce qui explique les affaires en justice.
D'accord, d'accord. Alors, ce que j'ai appris aussi en travaillant avec toi sur ces sujets, et tu l'évoquais d'ailleurs tout à l'heure, depuis les années 70, peut-être depuis aussi les années 80, que tous ces auteurs en sociologie admettent une évolution de la société du fait du modernisme galopant, je dirais, et de ses conséquences. Et à la lumière donc, de récents concepts issus de la sociologie, ton étude nous a également permis de comprendre qu'il y avait deux manières finalement d'aborder cette modernité. Alors il y a ceux qui ont une vision qui est qualifiée par les sociologues de moderne, et ceux qui ont une vision qui est qualifiée par ces mêmes sociologues de post-moderne. Et que c'est aussi cette différence en fait de vision qui serait à l'origine de la controverse et qui expliquerait finalement les différences de représentation que ces personnes ont de l'homéopathie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifient ces ancrages modernes et post-modernes en sociologie et en quoi c'est intéressant de les comprendre par rapport justement à la controverse pour l'homéopathie?
Et alors, avant que vous ne répondiez, car il faut ménager le suspense, on marque une dernière pause. Et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.
Florian Petitjean sur Nutri Radio avec son invité Emmanuel Adiscala. Vous continuez cette conversation. Vous avez posé une question juste avant la pause, Florian, qui portait sur l'influence des perspectives modernes et post-modernes sur les perceptions de l'homéopathie. Plus ou moins, c'est ce que j'ai retenu.
Florian, c'est exactement ça, mais du coup, Emmanuela va nous expliquer ce que ça signifie, parce que c'est passionnant.
Alors, merci. Oui, les ancrages. Alors, qu'est-ce qu'un ancrage moderne et qu'est-ce qu'un ancrage post-moderne? Un ancrage post-moderne, finalement, c'est un individu qui aura pour centre de gravité au sein de cet ancrage une vision, la vision des limites de la science et de la médecine conventionnelle actuelle selon le paradigme actuel. Alors qu'un ancrage moderne, il aura pour centre de gravité au sein de cet ancrage une approche de balance bénéfice-risque au sein de la société face aux différents risques encourus dans la société. Donc ça, ce sont les deux points, les deux éléments qui, on va dire, sont principaux dans ces ancrages. Pour faire le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'analyse des représentations et cette norme versus cette valeur, eh bien, en réalité, dans les représentations, justement, normes et valeurs ont un ancrage, un enracinement qui va permettre de les stabiliser, dans lequel elles vont s'asseoir. Et ici, on comprend, au travers de l'analyse, que ceux qui ont cette norme au centre de gravité vont avoir pour ancrage, pour assise, cet ancrage dit moderne, avec la balance bénéfice-risque, qui est au centre de gravité de l'ancrage, alors que les autres qui ont cette valeur d'une médecine sans effets secondaires prenant mieux en compte l'individu vont avoir pour ancrage sociologique eh bien, cet ancrage post-moderne avec ces limites qui sont pointées de la science et de la médecine conventionnelle selon le paradigme actuel.
Donc, ce qui veut dire que finalement, on n'est pas non plus dans un mode totalement binaire où il n'y a pas d'un côté forcément des rationnels et de l'autre juste des irrationnels. Il y a aussi des personnes, en fait, parmi lesquelles des scientifiques et des pros de santé, qui en plus d'être ouverts à la science, à la rationalité, ont une autre vision du monde que celle du matérialisme pur et simple. En fait, c'est ça les postmodernes.
Oui, tout à fait. En effet, l'analyse montre clairement que ce débat qu'on entend souvent, qui oppose rationalité et irrationalité, n'est pas finalement l'objet de l'opposition, mais que c'est bien une opposition entre deux représentations, l'une centrée sur une valeur et l'autre sur une norme, avec des ancrages sociologiques qui diffèrent, en effet, et donc globalement des visions qui s'opposent, mais qui ne se centrent pas sur une opposition de rationalité versus irrationalité.
Très bien, du coup c'est ce qui nous permet finalement de comprendre qu'il y a des, pour faire simple, des pour et des contre l'homéopathie, parce qu'ils ont référence, ils font référence intellectuellement, du fait également, et peut-être que c'est une façon de le dire plus simplement, de leur éducation, de leur formation, de leur culture également. Et du coup, ils ont ce regard différent entre ceux qui, donc, pour le coup, sont uniquement sur la norme et donc dans cet ancrage moderne, à savoir vraiment basé sur la science, les preuves scientifiques, c'est ça qui doit prévaloir. Et de l'autre côté, ce n'est pas forcément remis en cause ces notions de rationalité et de preuve, mais par contre, ils ont une autre idée de l'homéopathie dans la mesure où ils considèrent que ce qui prévaut, là, pour le coup, c'est le bien-être du patient, l'absence d'effets secondaires, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et quelque part, ils veulent réenchanter la science, en fait, aussi, la médecine, parce qu'ils s'appuient quand même dessus. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Si ce n'est que on ne pourrait pas réduire les ancrages modernes à des contre et les ancrages postmodernes à des pour, l'homéopathie. Parce qu'on va retrouver aussi parmi les ancrages modernes des sujets qui vont être favorables à l'utilisation de l'homéopathie, notamment pour son effet placebo, et donc qui ne vont pas forcément pointer ou rejeter l'homéopathie en tant que telle. Donc finalement, si on regarde les pour et les contre sans s'occuper des ancrages modernes, postmodernes, on va mélanger ou on n'identifiera pas forcément que on a aussi des ancrages modernes et postmodernes qui vont pouvoir adhérer à l'utilisation de l'homéopathie, mais pour des raisons qui pourront être différentes concrètement.
Très bien. Alors, du coup, moi, j'ai un peu un mantra depuis toujours qui est de réconcilier. Et du coup, ça a été d'ailleurs l'objet du travail, de voir comment on pouvait réconcilier ou concilier, en tout cas, des points de vue différents. Mais si on a autant de mal à les faire se comprendre, est-ce que c'est illusoire et ils peuvent vraiment pas se comprendre? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même un angle, un sujet ou une manière qui permettrait qu'on en finisse avec ce que j'estime être, au bout du compte, des débats stériles, en fait, qui mettent juste en scène des pour et des contre, alors qu'il y a un vrai intérêt à s'interroger sur la pratique, en fait, de soins qui consiste à prescrire, en l'occurrence, de l'homéopathie, mais peut-être aussi par rapport aux effets que l'homéopathie peut avoir sur l'auto-guérison, par exemple, ou en tout cas sur la relation entre le corps et l'esprit. Comment on peut faire en sorte que ces gens se parlent pour qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et qu'ils arrêtent, en fait, de se fustiger les uns les autres?
Alors, l'analyse, en effet, c'était un des objectifs aussi de ce projet Homéox, d'essayer de proposer des améliorations de la communication science-société. Et l'analyse a permis de montrer finalement, d'arriver à une proposition de conciliation en étudiant bien sûr les représentations opposées. Et elle a conduit à proposer justement l'auto-guérison, la relation esprit-pensée-corps, comme une proposition de conciliation qui permettrait de redimensionner ce débat et d'éviter de rester justement à un niveau de conflit finalement entre cette norme et cette valeur, mais plutôt de le redimensionner pour y associer les différentes approches qui peuvent être communes dans le débat entre ces deux représentations.
D'accord. Eh bien, écoutez, ça va être le sujet de notre épisode prochain. Et on va justement parler de cette idée de cette vision d'un côté de l'effet placebo comme peut-être quelque chose qui n'est un rien, et de l'autre côté, justement au travers de cette conciliation autour d'un terme qui est l'auto-guérison, où finalement, peut-être tout le monde pourrait mieux se parler, mieux se comprendre, du fait des représentations qui sont certes différentes, mais des points de convergence qui peuvent amener les gens à se parler. Je crois que c'est du coup l'objet de la suite des travaux que tu as engagés après le projet Homéox. On en parle la prochaine fois. D'accord, Fabrice?
Évidemment, on en parle. Prochaine émission, la semaine prochaine, toujours avec Emmanuela Discala qui sera avec nous. On la retient pendant une semaine, elle ne bouge pas. Personne ne sort de cette pièce avant qu'on ait fait le tour de cette émission et de cette question. Même si on pourrait rester du coup très longtemps parce que c'est un vaste sujet. On se retrouve donc la semaine prochaine. Cette émission, elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast. Au revoir Emmanuel, au revoir Florian.
Au revoir. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.
C'est le retour de la musique tout de suite. Sur Nutri Radio, restez avec nous.
La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.